chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour, je m'appelle Sophie Martin.
Et moi, Julie Blanchette. On est toutes les deux conseillères en soins infirmiers à la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu.
Aujourd'hui, on s'intéresse aux assistantes, aux supérieurs immédiats, qu'on dit les ASI, qui détiennent un rôle central dans la qualité et la sécurité des soins et dans le bien-être des équipes.
Oui, puis aujourd'hui, on a le plaisir, pour nous en parler, d'accueillir Angelica Veilleux, qui a débuté comme assistante en médecine-chirurgie et qui est actuellement assistante à temps partiel au CHSLD de Magog, tout en suivant une maîtrise, en poursuivant sa maîtrise en sciences infirmières.
Bonjour à vous deux et merci de m'accueillir pour cet épisode. Le rôle de l'assistante m'interpelle beaucoup, étant infirmière depuis environ 7 ans et le fait que j'ai évolué rapidement vers le rôle de l'assistante. Cette expérience m'a permis justement de me développer et de me grandir tant professionnellement que personnellement au fil des années.
Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de discuter aujourd'hui du rôle des ASI parce que c'est une occasion idéale de mettre en lumière l'importance cruciale de leur rôle puis aussi de clarifier leur contribution là, qui est essentielle dans les équipes.
T'as raison, Sophie. Puis les assistantes sont vraiment très importantes dans les milieux de soins. On se souvient peut-être déjà tous ou toutes là, d'une expérience auprès d'une assistante qui nous a marqué soit positivement ou peut-être même négativement là, dans notre milieu. Puis qu'on le veuille ou non, bien, les assistantes sont un modèle de rôle et notamment pour les jeunes infirmières.
Je ne peux pas m'empêcher, par contre, de nommer que ce n'est pas tout le monde qui a une vision claire du travail de l'ASI. Puis, ben, comme toute chose qu'on ne connaît pas vraiment bien, on peut finir par déformer la réalité.
Oui, puis tu sais, souvent, j'entends dire qu'être assistante, il n'y a rien là. Il y en a beaucoup qui vont focaliser sur le fait qu'elles sont au poste à répondre au téléphone ou qu'assistante, là, c'est surtout de régler des conflits, mais c'est beaucoup plus que ça.
C'est vrai que quand on se penche sur le rôle de l'assistante, on voit juste la petite partie de l'assistante qui est sur le terrain, mais on oublie tout ce qui est en arrière. On ne voit pas nécessairement tout le travail que l'assistante a fait en arrière dans son bureau, justement, pas aux soins directs avec l'équipe de soins.
Puis sur quel aspect, par exemple, le travail de l'assistante va faire vraiment une différence?
Bien, assurément, la qualité et la sécurité des soins.
OK, mais concrètement, comme assistante, là, pour pouvoir contribuer à améliorer la qualité et la sécurité des soins aux usagers, comment?
Mais il y a un côté qui est administratif, qui inclut de faire des audits, de faire des suivis, des rapports d'incidents, accidents, des suivis d'évaluation. Mais il ne faut pas oublier non plus que les assistantes sont une référence pour les équipes de soins. Elles sont là pour les aider à naviguer à travers les différentes réalités et aussi de savoir où trouver les bons aspects pour pouvoir guider les équipes dans leurs questionnements. Il y a aussi le côté terrain qui est super important. On a parfois l'impression là, que l'assistante a fait surtout du social dans les équipes. Elle parle, elle demande comment se passe la fin de semaine. Mais il ne faut pas oublier que c'est par ces moments-là sur le terrain que l'assistante elle apprend à connaître son équipe puis à gagner la confiance aussi de son équipe pour pouvoir avoir une influence différente sur son équipe.
Je crois qu'elle n'a pas toujours directement la prise en charge des usagers. Là. Ça va dépendre des milieux.
Exactement, ça dépend. Il y a certaines assistantes qui ont une responsabilité directe avec le patient, puis il y en a d'autres qui sont libérées. Comme nous, à Magog, on est choyés d'être libérés de la responsabilité des patients. Mais ça apporte aussi d'autres responsabilités de l'assistante, tout dépendant de ce qu'elle fait, là, si elle a une responsabilité patient ou pas. Si jamais elle n'a pas directement de responsabilité, mais c'est sûr qu'il faut qu'elle reste au courant de la réalité de l'unité pour faciliter l'ajustement de des interventions, soit des infirmières ou ses propres interventions à elle. Puis elle doit aussi savoir quels enjeux sont présents actuellement au sein des équipes pour pouvoir les aider puis les guider justement à pouvoir traverser ces enjeux-là. L'avantage de l'infirmière assistante qui a une responsabilité au patient directement, c'est qu'elle vit directement la réalité. Fait qu'elle est capable de comprendre les enjeux et non pas juste savoir quels sont les enjeux, mais de réellement comprendre ce que les infirmières vivent puis pouvoir mettre du poids plus spécifique à cette réalité-là au niveau des gestionnaires ou au niveau des personnes qui pourraient justement aider à améliorer tout ce qui est processus de soins en tant que tel.
Donc, je réalise que c'est vraiment vaste, là, tout ce que l'ASI peut faire. Puis ça peut être des fois difficile peut-être de distinguer son rôle de celui de l'infirmière, surtout quand elle se retrouve là, au patient. Donc, parce que l'infirmière aussi, elle joue un rôle clé dans la qualité et la sécurité des soins. Mais l'ASI, qu'est-ce que concrètement là, elle apporte aussi de plus selon toi?
Mais c'est sûr que là, il faut différencier l'assistante qui a une responsabilité patient versus une responsabilité de prise en charge d'un patient versus celle qui ne l'a pas. On va commencer par celle qui ne l'a pas. Elle, dans le fond, elle a un pas de recul sur les situations de soins, ce qui lui permet de garder une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Elle est moins chargée cognitivement, ce qui lui permet justement de pouvoir questionner le pourquoi. Pourquoi on agit comme ça? Pourquoi on devrait faire telle intervention mieux que l'autre? Elle est justement capable d'être plus vigilante par rapport aux petits aspects qui pourraient venir nuire petit à petit la qualité des soins qu'on pourrait donner à nos usagers. Elle est capable aussi de faire une certaine analyse de la situation qui, l'infirmière sur le plancher, justement, elle, des fois, avec la charge émotionnelle, avec le fait qu'elle est prise dans la situation, c'est un petit peu plus difficile de faire ce pas de recul-là. Si on va plus vers l'assistante qui a justement... le côté de la responsabilité des usagers, mais elle, c'est sûr qu'elle connaît plus en profondeur les usagers, fait qu'elle est capable de pousser plus loin puis de pouvoir aider justement l'usager en tant que tel à s'améliorer et aussi de favoriser l'entretien de l'équipe de soins. On pense aussi que l'assistante a un rôle pour soutenir les équipes soignantes. Lorsque l'infirmière ou un autre membre de l'équipe a de la difficulté à chercher de l'information, mais l'assistante, elle peut aller aider à lui trouver ou aller chercher l'information pour pouvoir bien l'accompagner et aider le développement de ces professionnels-là. Je peux donner comme exemple tout récemment là, une grille PAC Slack là, qu'une infirmière ne savait pas comment l'interpréter. Fait que j'ai pu aller chercher certaines informations là, pour pouvoir lui ramener. Puis après ça, j'ai pu lui montrer où aller chercher cette information-là au cas où qu'elle l'oublie la prochaine fois.
Puis pour nos auditeurs et auditrices, le PAC Slack, là, c'est l'échelle spécifique à l'évaluation de la douleur chez les aînés. Hein?
Exactement.
OK, merci.
Il y a aussi le fait que l'assistante... au supérieur immédiat, là, elle a un rôle à jouer auprès des équipes soignantes, mais surtout par rapport aux gestionnaires. Elles sont comme le pont entre l'équipe soignante et les gestionnaires. Elles peuvent permettre de soulever certains enjeux, de pouvoir aider justement à faciliter le travail des gestionnaires, à pouvoir aller chercher certaines informations. Et en même temps, elle peut aider les gestionnaires à mieux comprendre effectivement qu'est-ce qui se passe sur le terrain.
Avec tout ce que tu dis, là, moi, je retiens vraiment que comme ASC, tu es une personne ressource. Puis je sais que quand je rencontre la relève en soins infirmiers, je le nomme ça, que l'ASC est toujours disponible sur l'unité pour les aider, les accompagner. Puis aussi, bien, c'est vraiment intéressant là, de voir le lien qui existe entre l'ASC et le gestionnaire. Puis je crois que les rencontres formelles entre l'ASC et leur gestionnaire, c'est essentiel, là, autant pour le développement de l'ASC que pour soutenir le gestionnaire. Donc, c'est vraiment des rencontres là, qui sont gagnantes-gagnantes. Là.
C'est sûr que oui.
As-tu un exemple concret, justement, de collaboration avec la gestionnaire, ta gestionnaire surtout, là, qui a déjà eu un impact sur la qualité et la sécurité des soins?
Bien oui, justement, cet été, on a vécu une situation qui était quand même assez... assez importante. Là, on a eu un usager qui a présenté des idées suicidaires. Puis c'est justement la relation avec l'infirmière et la gestionnaire vraiment en tant qu'équipe qu'on a réussi là, à pouvoir bien soulever et mettre en place là, tout ce qu'il fallait pour assurer la sécurité de cet usager-là. Je vais donner comme exemple, l'infirmier, lui, s'occupait surtout de la proximité du patient en finissant son évaluation, en rendant sa chambre sécuritaire, la chambre de l'usager, évidemment. Moi, pour ma part, je me suis occupée vraiment de trouver des ressources, fait que les protocoles, des plans d'action, qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement pour pouvoir assurer que tout, on avait tout mis en place pour cet usager-là. C'est sûr que j'avais parlé aussi avec... Mais il y a quand même des policiers, des ambulanciers puis des pompiers qui ont fini par venir, là, mais on a pu justement parler avec tout le monde pour pouvoir assurer que ce patient-là était en sécurité, en fait, là, il était là pour ça. Puis aussi, j'ai pu aller chercher la travailleuse sociale, j'ai pu parler justement aussi avec les conseillères en soins pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire justement pour bien soutenir cet usager-là. Puis la gestionnaire, de son côté, elle nous soutenait justement du côté qu'elle nous aidait à trouver plus de personnel pour pouvoir assurer une garde pour cet usager-là. Elle s'assurait justement qu'on puisse avoir accès à ce qu'on avait besoin pour pouvoir prendre en charge l'usager. Fait que c'est sûr qu'avec une collaboration avec toute cette équipe-là, on a pu montrer que travailler en équipe, c'est vraiment efficace pour les usagers, pour la sécurité de leurs soins.
C'est le fun ce que tu apportes là, Angelica, parce que ça nous amène aussi à quelque chose qui est super important, puis c'est tout ce qui touche le volet des communications.
C'est sûr que je ne vous cacherai pas que la communication, surtout quand elle est transparente, est super importante dans toute relation en sciences de la santé. En fait, faut être franche, là, les personnes qui sont impliquées, c'est tout ce qui est personnel de la santé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le patient qui est impliqué dans cette communication-là. Fait qu'il y a le type de communication là, qu'on peut avoir là, qui est super importante avec notre gestionnaire puis notre équipe de soins, justement, qui est transparente pour aller chercher tous les besoins de chacune des personnes puis pouvoir régler les besoins de chacune de ces personnes-là. C'est souvent des discussions là, qui se font de manière informelle, mais je dois avouer qu'en début de pratique, justement, des communications formelles sont aussi importantes là, pour pouvoir bien encadrer autant les assistantes que les équipes de soins. Puis justement, moi, j'avais une gestionnaire qui m'accordait au moins une heure là, par jour, surtout en début de pratique, pour pouvoir m'aider justement à m'améliorer puis à savoir comment moi, en tant que jeune infirmière, je puisse bien soutenir une équipe de soins qui était quand même, soit dit en passant, une équipe assez ancrée, là. Puis c'est justement l'appui de cette gestionnaire-là qui a permis de faire l'infirmière et l'assistante que je suis aujourd'hui, 6 ans plus tard.
OK. Fait que t'as vraiment eu une gestionnaire exemplaire, là. Je crois que c'est ça. On a parlé un peu tantôt. Les rencontres formelles entre les assistantes et leur gestionnaire, c'est vraiment essentiel au développement de l'assistante, là. C'est des rencontres, comme Sophie disait tantôt, qui sont totalement gagnantes-gagnantes.
Dans un autre ordre d'idée, moi, je suis quand même curieuse de t'entendre, Angelica, sur un sujet peut-être qui est un petit peu plus délicat, là, les normes tacites. On parle des façons de faire qui ne sont pas nécessairement écrites, des pratiques qui sont acceptées, qui peuvent aller à l'encontre des meilleures pratiques. On s'aperçoit qu'elles sont omniprésentes dans presque tous les milieux. Puis ça peut avoir un impact sur la qualité des soins. Mais tu sais, la phrase là, « Ah, ben comme ça, ici, on ne fait pas ça comme ça », ben on l'entend vraiment souvent hein, pour justifier des pratiques qui ne sont peut-être pas optimales. Hein. Mais comme à SI, toi, comment tu réagis dans une situation comme ça, d'une règle tacite qui répond peut-être pas là, aux meilleures pratiques?
C'est sûr que des fois, je dois prendre un recul puis je dois respirer, mais l'important, là, c'est vraiment de pouvoir explorer les origines, savoir d'où ça vient, de savoir pourquoi cette règle-là est en place puis qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Je peux donner comme exemple là, les rapports d'incident-accident. Souvent, on va dire, ah, oh, ben non, on fait pas ça ici, justement. Là, on veut pas que l'infirmière soit... On veut pas qu'elle soit pénalisée là, par le fait qu'elle a fait une erreur. Mais au contraire, justement, faut leur expliquer pourquoi ces rapports-là existent. Ces rapports-là sont là pour assurer justement que quand il y a une erreur qui se fasse, bien, qu'on ne soit pas obligé justement de pénaliser une personne en tant que telle, mais de pouvoir améliorer le processus de soins pour que ce type d'erreur-là ne se refasse pas dans le futur. Fait que c'est pas de pointer du doigt la personne qui a fait l'erreur, mais de pointer qu'il y a une erreur qui s'est produite au sein de notre organisation puis qu'on aimerait que cette erreur-là ne se refasse plus dans le futur. On peut aussi penser aux fameux PTI là, qu'on dit « Ah ben non, nous, on n'a pas le temps de faire ça ici », mais au contraire, le PTI est là pour justement nous appuyer puis prouver qu'on a une démarche en tant que telle. Fait qu'il faut penser d'où viennent ces règles-là puis qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'enlever justement la pensée des infirmières sur l'unité.
En parlant de PTI, justement, ça me fait penser, il y a eu la jurisprudence récente sur ce sujet-là, notamment en 2021, où le juge, au sein d'un conseil de discipline de l'ordre, a vraiment stipulé que le PTI, ça fait partie de la documentation infirmière et ça ne doit pas être quelque chose qu'on néglige. Là. C'est vraiment normé. Là.
Justement, ça fait penser à la responsabilité individuelle de l'infirmière. T'sais, on pense souvent aux nouvelles recrues qui essaient de chercher un peu puis de savoir qui sera mon modèle de rôle pour pouvoir améliorer sa propre pratique. Mais justement, quand on a des règles tacites comme ça, mais ça vient nuire à leur responsabilité individuelle à eux. Ils peuvent créer en partant des faux plis, comme on pourrait dire. Puis ces faux plis-là, il faut essayer de les défaire pour qu'ils puissent avoir une bonne pratique sécuritaire pour les usagers. On pense justement... Il ne faut pas nécessairement suivre ces règles-là les yeux fermés, mais les questionner, savoir pourquoi moi, en tant qu'infirmier, je devrais prendre cette règle-là et me l'approprier dans ma pratique à moi. Fait que c'est le rôle de l'assistante aussi, ça fait partie de vouloir guider les nouvelles recrues à pouvoir faire la part des choses, de pouvoir prendre leurs propres décisions puis de pouvoir les soutenir dans le fait que peut-être que ce sera eux le premier mouton noir, mais qu'on voudra justement qu'il ne sera pas le seul, que les autres commencent à suivre puis qu'on puisse changer tranquillement, pas vite, les règles tacites en devenant une manière de voir les soins comme étant plus sécuritaires pour pouvoir dire, moi, je fais tout ce que j'ai besoin de faire au niveau légal, au niveau professionnel pour pouvoir assurer que les usagers sont sécurisés puis qu'ils ont une bonne qualité des soins.
Ça passe beaucoup par la rétroaction que tu vas leur donner aussi à ces personnes-là. Mais toi, comme assistante, est-ce que Ça t'arrive d'en recevoir de la rétroaction?
Mais justement, je trouve que c'est super important pour une assistante d'être capable de autant donner de la rétroaction que de l'apprendre. Parce que si on n'écoute pas notre équipe, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes se développer? C'est notre développement en tant qu'assistante vient, oui, des gestionnaires puis de leurs demandes envers nous, mais vient surtout des besoins puis des demandes de l'équipe de soins en tant que telle pour justement que nous, on puisse savoir comment mieux les guider, comment mieux les encadrer, comment mieux être utile pour les équipes et pour les usagers en tant que tels, même si on n'est pas toujours directement à leurs soins.
Je pense que comme ASI, c'est important de faire preuve de transparence, surtout faire preuve de caractère.
Bien, 100%, je peux donner comme un exemple. Quand il y a une infirmière qui me dit « moi, je suis pas d'accord avec toi, je le ferai pas », moi, en tant que telle, je vais répondre « OK, parfait, c'est correct, c'est ton permis, tu as le droit de l'exercer de la manière que tu veux. Par contre, si moi, je trouve que les soins que tu donnes sont dangereux, c'est sûr et certain que je vais aller voir la gestionnaire puis je vais soulever le point que j'ai mentionné parce que je sais que tu auras eu toutes les informations pertinentes pour prendre une décision éclairée. » Puis la qualité des soins est toujours ce qui prévaut dans les décisions qu'on prend en tant qu'infirmière.
Oui. Puis, est-ce que c'est facile de briser? Là, on en parle, ça a l'air super simple, notre affaire, mais de briser ces normes tacites-là, est-ce que ça l'implique beaucoup pour l'assistante?
Mais c'est sûr que l'assistante, elle ne peut pas contrôler la pratique professionnelle de chacun des membres de l'équipe et surtout présente pour les accompagner, pour les guider, les soutenir. Fait que l'important, c'est vraiment qu'on soit là pour les aider, pour pouvoir prendre des bonnes décisions selon les bases de données qui sont actuelles, selon les données probantes. Puis à partir du moment que... en fait, je parle beaucoup de responsabilités individuelles, là, puis c'est tant du côté de l'assistante que du côté de l'équipe, là. Il y a vraiment une responsabilité d'équipe aussi. Fait que, tu sais, on pense que, oui, on est responsable de notre propre pratique, mais on est aussi responsable de la pratique que notre équipe donne envers notre usager. Fait qu'on peut dire, c'est pas la même chose de briser une règle toute seule que de briser une règle ensemble. Fait que, on peut donner comme un exemple. Je me souviens, quand j'étais... il y a quelques années, en fait, on voulait justement briser l'idée des rapports d'incident-accident. Fait qu'on s'est assis en équipe et on s'est dit, bon, mais OK, parfait. À partir d'aujourd'hui, tout le monde, on prend en considération que quand il y a un incident-accident qui va se faire, on les déclare puis on sait en équipe que ça ne sera pas justement pour pointer du doigt, mais on prend une décision que nous, on veut améliorer notre qualité des soins. Donc, on va faire cette action-là.
Tu parles de l'importance de l'équipe, le rôle de l'assistante en matière de qualité et sécurité des soins. Dernièrement, je lisais le rapport dans l'histoire de Joyce et Chacuan. Et justement, le coroner venait mettre en lumière où était l'assistante dans cette situation-là, parce que c'était une jeune CP de moins de 4 mois d'expérience qui avait Mme et Chacuan sous sa responsabilité. Fait que c'est hyper intéressant ce que tu amènes.
Justement, tu sais, surtout avec les nouvelles recrues, je pense que l'assistante, elle a vraiment sa plus-value dans ce type d'histoire-là pour pouvoir assurer le bon suivi de la nouvelle recrue, là.
Je pense vraiment que jusqu'à maintenant, tu démontres avec des exemples concrets, avec tout ce que tu nous expliques, là, le rôle de l'ASI. Ça met vraiment en lumière nos questionnements du début, à savoir bien, c'est quoi finalement la différence, qu'est-ce que ça fait exactement. Jusqu'à maintenant, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment clair pourquoi ce rôle-là est de plus en plus mis de l'avant là, dans nos milieux de soins.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Aujourd'hui, dans notre segment « Quoi de neuf à la DSI », on voulait, dans le fond, vous parler d'une nouvelle formation qui est axée sur la qualité et la sécurité des soins et qui est offerte gratuitement aux assistantes, qui s'intègre d'ailleurs dans le programme ASI. Donc, c'est une formation qui est accréditée pour l'Ordre et qui vient souligner l'importance de la surveillance clinique et de l'évaluation infirmière pour vraiment promouvoir une culture de sécurité en mettant en avant-plan notamment le rôle des assistantes. Donc, c'est une formation qui a été élaborée par la Direction des soins infirmiers, mais en collaboration étroite avec Mme Odette Doyon, qui est vraiment une sommité en matière d'évaluation et de surveillance clinique. On est vraiment chanceux, chanceuse de l'avoir eue avec nous. Donc, on est impatient de pouvoir la donner. On débute bientôt et pouvoir éventuellement constater les effets positifs de cette initiative-là. Et on est aussi en même temps ravis d'annoncer qu'il y a d'autres projets à venir prochainement avec le programme ASI, notamment une communauté de pratique et des groupes de co-développement dédiés aux assistantes aux supérieurs immédiats. Pour la deuxième partie, on aimerait vraiment pouvoir se plonger dans le rôle essentiel des assistantes dans la santé, mais aussi le bien-être des équipes. Pour explorer la thématique, on est allé rencontrer 3 infirmiers et infirmières qui vont exercer ou qui ont exercé des fonctions d'assistante. Et ces assistants-là, issus de différents milieux, nous ont partagé vraiment des perspectives intéressantes sur leur impact quant au bien-être des équipes. Fait que pour commencer, on va écouter une infirmière qui était justement assistante de soir au centre Jean-Patrice Chiasson, qui est le centre de réadaptation en dépendance de l'Estrie. Et elle nous parle de l'importance là, des gestes simples au quotidien.
Mais le fait voilà, de se saluer, de se dire bonjour, de se demander comment on va, de se dire ben, ce soir on travaille avec telle et telle personne, on a telle équipe, donner son temps de présence, dire ben, voilà, moi j'ai telle et telle chose, mais je peux être présente, je passerai à ce moment-là. Pouvoir avoir des temps d'échange aussi très informels, hein, et pas tout le temps dans l'officieux, dans le... mais juste voilà, de se raconter aussi nos week-ends, d'être présent, voilà, d'être sociable, j'ai envie de dire, de socialiser avec son équipe. Hein. On n'est pas juste là en tant qu'AIC et collègues, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Donc voilà, le fait de socialiser, ça passe vraiment par des gestes simples d'être là, puis d'être vigilant à l'autre aussi, à son non-verbal, de voir qu'est-ce qui se passe, ou de voir bah, aujourd'hui, tu vois, voilà, t'as pas l'air en forme, ou t'es ou à l'inverse, t'es bien enjoué aujourd'hui, être vigilant aussi aux émotions.
Ben, je trouve ça vraiment pertinent de parler de l'importance de la socialisation, parce qu'il y a vraiment un impact hein, sur l'équipe, puis ultimement sur l'usager. Ben, Angelica, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Mais justement, je pense que de socialiser, là, ça permet vraiment de créer puis de maintenir un esprit d'équipe, de créer un milieu qui est propice à la collaboration puis à l'entraide. Je peux donner comme exemple, je me souviens, avant la COVID, on faisait souvent des soupers collectifs où on jouait aux cartes ensemble, on pouvait faire des potlucks, fait qu'on mangeait tous au poste en même temps pour pouvoir essayer de soutenir une équipe, un esprit d'équipe. Justement, tu sais, de demander comment va la personne fait une différence majeure dans les relations interpersonnelles parce qu'on prend soin de nous en même temps de prendre soin des autres. On peut aussi penser que de prendre soin de nous, ça peut favoriser justement l'établissement d'une communication qui est transparente puis qui permet de légitimer les besoins de tous et en rendant authentiques nos relations avec l'équipe avec qui on est. C'est vrai que les données probantes, là, ils nous démontrent que de consolider l'équipe de soins en tant que telle, ça a un impact avec les délais d'intervention par rapport à un usager qui se détériore. Je peux donner comme exemple, ben, l'infirmière a de la difficulté, mais le reste de l'équipe va venir la soutenir, va venir l'aider. Fait que ça fait qu'il y a plus de personnes qui peuvent venir aider le patient en tant que tel là, qui est dans une situation un peu plus critique. Là.
C'est fou de penser que la notion de plaisir au travail, là, le climat agréable, ça peut avoir un impact sur la qualité, la sécurité des soins aux usagers. Mais savez-vous que Agrément Canada, justement, mentionne que le milieu de travail, c'est-à-dire le prendre soin de mon entourage, c'est vraiment une des dimensions essentielles de la qualité des soins. Donc, pour moi, l'ASI doit être capable d'incarner cette importance-là là, de dimension milieu de travail.
On a même d'autres extraits d'ASI qui vont nous parler puis qu'eux aussi semblent avoir compris l'importance de leur rôle sur la santé et le bien-être des équipes.
En tant qu'ASI en médecine chirurgienne, en fait, là, l'autre truc que j'utilise aussi, ben, c'est pas nécessairement un truc, là, je le fais quotidiennement, mais c'est de me rendre disponible pour être à l'écoute là, des gens puis être à l'écoute de leurs besoins aussi puis de vraiment prendre le temps pour l'équipe parce qu'il peut y avoir des moments plus difficiles, autant personnel ou autant dans le professionnel. Donc, c'est ça, là, j'essaie de me rendre le plus possible disponible pour eux puis de faire de l'écoute active et tout ça. Là.
En tant qu'ASI en GMF, je suis pas directement impliquée dans les équipes là, au quotidien. J'essaie de chercher de la proximité autrement par, entre autres, les technologies, les textos sur Teams. On s'organise aussi des rencontres formelles avec les infirmières pour avoir un point de contact.
Suite à l'écoute de ces extraits-là, Angelica, est-ce que tu voudrais réagir à ce qu'on vient d'entendre?
Je suis entièrement en accord. Pour bien accomplir le rôle de l'assistante, l'écoute, la disponibilité, l'accompagnement et le soutien sont très importants. Il faut aussi qu'on pense là, que d'être en mesure d'adapter nos interventions en fonction des besoins de l'équipe et de chaque personne de manière individuelle. On n'agira pas avec une personne de la même manière qu'on va agir avec l'autre justement pour pouvoir favoriser l'intégration puis la communication avec cette personne-là. On ne se cachera pas que le rôle vient avec son lot de défis. Nos gestionnaires, justement, sont disponibles pour nous accompagner, nous, en tant qu'assistantes. Mais à la base, là, lorsqu'on ne sait pas comment réagir ou comment agir dans une situation particulière, c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher nos gestionnaires. La bienveillance, pour moi, est une valeur super importante chez les assistantes et en plus des gestionnaires. Je pense, par exemple, que cette bienveillance-là, c'est aussi une valeur qui doit être présente au sein de l'équipe pour qu'on puisse favoriser un environnement puis un entraide d'équipe pour que ce soit agréable pour tous. Puis en parlant justement de bienveillance, l'assistante ne doit pas s'oublier dans toutes ses tâches. Elle doit être en mesure de reconnaître ses limites et de savoir où aller chercher de l'aide et quand aller chercher de l'aide pour continuer à bien supporter ses équipes au fil des années.
La bienveillance, c'est tellement important. Mais pour terminer notre discussion qui était vraiment enrichissante, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une infirmière, un infirmier qui voudrait devenir ASI ou peut-être à de la relève qui pourrait voir ce rôle-là comme un bel objectif professionnel? Qu'est-ce que tu leur dirais?
Mais j'ai trois choses qui me viennent en tête. Il y a le s'écouter soi-même puis être à l'aise avec les décisions qu'on prend, sachant qu'on prend une décision ne sachant pas ce que ça va donner comme impact. C'est plus facile de dire avec un poids de recul, « Ah, j'ai fait une erreur, la prochaine fois, je vais le faire d'une manière différente, je vais prendre une décision différente. » Mais quand on est dans le feu de l'action, la décision, on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Fait que de s'écouter soi-même puis de pouvoir être à l'aise avec nos décisions, c'est très important. C'est important aussi de se questionner par rapport aux décisions qu'on prend pour pouvoir s'améliorer, nous, en tant qu'assistante, de manière continuelle et de continuer à en tirer des apprentissages, peu importe l'impact que notre décision aura eu. Le deuxième point que j'ai en tête, c'est la communication et l'écoute. C'est la base de tout et c'est très important, je dirais même plus important dans le rôle de l'assistante, justement pour être capable de bien encourager puis de bien soutenir son équipe et son équipe, mais tu sais, tous les professionnels autres qui pourraient interagir avec son équipe, là. C'est vraiment la communication et l'écoute, c'est vraiment de maintenir des liens qui sont sécurisants puis de les créer. Ben, tu sais, on commence par les créer puis après ça, on les maintient. Et le troisième point que je dirais, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions. Sache qui tu es, reconnais tes limites et demande de l'aide aux besoins. Si on n'essaye pas de s'améliorer, c'est à ce moment-là qu'on devient dangereux. Puis je pense que ce point-là s'applique vraiment pour tous.
Merci beaucoup, Angélica, d'être venue avec nous dans le balado, d'être venue partager avec nous là, toute ton expérience, toute ta vision du rôle de l'ASI.
Si je peux me permettre un petit surplus de coup de cœur. Tu as un coup de cœur, Angélica. Merci beaucoup d'avoir été là, honnêtement. C'est super enrichissant et tu as vraiment un beau franc-parler. Là. Une belle ressource qu'on a. Merci.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Aujourd'hui, dans le segment coup de cœur de la DSI, on a une excellente nouvelle à partager. La Direction des soins infirmiers a remporté le prix Innovation infirmière de la Banque nationale 2024 pour son programme d'intégration et développement des compétences des assistantes aux supérieurs immédiats. Ce prix a été remis lors de l'Assemblée générale annuelle de l'OIQ le 2 décembre 2024. Félicitations à toute l'équipe pour cette reconnaissance bien méritée.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, actes réservés. Ai-je le droit?
Ai-je le droit comme infirmière auxiliaire d'irriguer un cathéter de néphrostomie? La réponse est oui. Tout comme l'infirmière auxiliaire peut procéder aux divers soins reliés au cathéter de néphrostomie, incluant d'assurer sa perméabilité. Il faut comprendre de façon générale que le type de cathéter percutané, par exemple un pigtail ou un drain de type pleurix, ne représente pas une limitation applicable à l'activité réservée des infirmières auxiliaires qui est d'appliquer les mesures invasives d'entretien du matériel thérapeutique. Il est important toutefois de considérer qui est mon usager? Quelle est sa condition clinique? Où se situe ce drain? Ai-je les connaissances et les compétences suffisantes pour m'exécuter et pour réagir en cas de complication? Il faut aussi considérer l'ordonnance médicale se rattachant à l'acte de soin et précisant par exemple la fréquence d'irrigation, la solution et la quantité à irriguer, ou encore de se référer à la directive infirmière au plan thérapeutique infirmier. Dans tous les cas, l'infirmière auxiliaire peut aussi se référer à la méthode de soins ou encore s'assurer d'être accompagnée par une autre professionnelle habilitée.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulasladge.
Égalité et équité. L'égalité et l'équité sont deux concepts liés à la justice sociale, mais ils ont des significations distinctes. L'égalité signifie traiter tout le monde de la même manière en offrant les mêmes ressources et opportunités à chacun et chacune, sans tenir compte des différences individuelles. L'objectif est de garantir que tous les individus ont les mêmes droits et accès aux services. L'équité, en revanche, reconnaît que chaque individu a des besoins et des circonstances différentes. Elle consiste à fournir des ressources et des opportunités de manière proportionnelle aux besoins spécifiques de chaque personne. L'objectif de l'équité est de compenser les désavantages structurels pour assurer que tous puissent atteindre les résultats comparables. Par exemple, l'équité peut signifier offrir un horaire de travail adapté à une personne qui pour des raisons médicales, ne peut rester debout plus de 2 heures de suite. En résumé, l'égalité vise à uniformiser le traitement, tandis que l'équité cherche à ajuster ce traitement en fonction des besoins individuels pour parvenir à une justice réelle. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section Équité, Diversité et Inclusion dans l'intranet du CIUSSS de l'Estrichus.
On remercie beaucoup Angelica Veilleux qui est venue en studio aujourd'hui avec nous. On remercie aussi toutes les professionnels infirmiers et infirmières qui ont participé donc pour les extraits qu'on vous a fait entendre.
Ne manquez pas le prochain épisode où il sera question ici du leadership clinique au quotidien à travers les yeux d'une jeune gestionnaire qui a su faire la différence pour une équipe.
Voici ce qui conclut notre épisode du balado Savoir et Stéthoscope.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.